Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 31 décembre 2021. En direct de Washington, Jean-Roger Billon
et Rosine Monedero.
On commence avec les titres.
Au Mali, les participants aux assises nationales recommandent une prolongation de la transition de 6 mois à 5 ans.
Au Soudan, 4 manifestants ont été tués, des dizaines d'autres blessés par une foule qui a conspué le pouvoir militaire, bravant balles réelles, grenades lacrymogènes et coupure des communications.
En Libye, le Premier ministre Abdelhamid Deba reprend officiellement son poste après avoir pris congé de ses fonctions pour briguer la présidentielle avortée.
Le président américain Joe Biden s'est entretenu jeudi avec son homologue russe Vladimir Poutine. L'Ukraine a dominé leur conversation téléphonique.
Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Les participants aux assises nationales de la refondation présentées comme des consultations préalables à des élections et à un retour des civils au pouvoir au Mali ont proposé hier jeudi à Bamako de prolonger l'actuelle transition de la junte militaire de 6 mois à 5 ans. Le point avec Eric Manirakiza.
Les participants se sont prononcés pour la prorogation de la transition afin de pouvoir réaliser les réformes institutionnelles structurantes et permettre des élections crédibles, équitables et transparentes. Les délais avancés varient de 6 mois à 5 ans, indique un rapport final lu jeudi à l'issue des assises en présence du colonel Goïta. Conformément aux recommandations des assises nationales, le gouvernement mettra en place un chronogramme visant à assurer un retour constitutionnel apaisé et sécurisé, a déclaré Assimi Goïta lors de la cérémonie de clôture des consultations qui ont démarré le 11 décembre dans différents cercles et communes du pays. C'est donc l'occasion et le lieu de rassurer le peuple malien sur notre engagement et notre détermination quant à la mise en œuvre des résolutions issues de ces assises souveraines, a poursuivi le président de transition. Il a invité la CDAO à accompagner davantage le Mali dans la réalisation d'actions en soutenant l'organisation prochaine des élections.
3 casques bleus tanzaniens ont été blessés, dont l'un grièvement jeudi lorsque leur véhicule a sauté sur un engin explosif dans l'ouest de la Centrafrique. Depuis plusieurs mois, les groupes armés qui sévissent en Centrafrique, repoussés par des grandes agglomérations, ont recours à des techniques de guérilla et posent des engins explosifs le long des axes routiers pour retarder l'avancée des forces pro-gouvernementales. C'est la troisième fois que des casques bleus de la MINUSCA sont victimes des engins explosifs en Centrafrique, selon la MINUSCA.
Au Soudan, 4 manifestants ont été tués hier par balle à Omdurman, une banlieue de Khartoum, et des dizaines blessés alors qu'ils réclamaient le retour à un pouvoir civil. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Dans un appel relayé par des pages Facebook tenues par des Soudanais résidents à l'étranger, les médecins ont déploré que les forces de l'ordre empêchent les ambulances d'approcher des victimes. La télévision satellitaire basée à Dubaï, Al Arabiya, a annoncé que plusieurs de ses journalistes ont été blessés dans une attaque contre son bureau par les services de sécurité. La chaîne locale El Shark a aussi affirmé avoir été empêchée par les forces de sécurité de couvrir l'actualité du jour. Pour empêcher les rassemblements, les forces de l'ordre ont installé des conteneurs sur le pont. Les autorités ont aussi coupé l'Internet mobile et les appels téléphoniques locaux et ceux venus de l'étranger. Outre les perquisitions au siège des médias, les forces de sécurité ont installé tôt hier des caméras sur les principaux axes de Khartoum. Cela n'a pas empêché des dizaines de milliers de manifestants de scander de nouveau, non au pouvoir militaire et les militaires à la caserne, à Khartoum, Kessala, à Port-Soudan et à Madani. En 2 mois de mobilisation anti-putsch, 52 manifestants ont été tués et des centaines blessés par balles.
Des dizaines de civils ont été tués la semaine dernière au cours de frappes aériennes dans la région en guerre du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, le plus lourd bilan enregistré depuis le mois d'octobre, a annoncé jeudi l'Agence de l'ONU pour les affaires humanitaires. Des frappes ont touché notamment les villes d'Alamata, de Korem, de Mecheo, de Mekoni et de Milazat dans le sud du Tigré, ainsi que la capitale régionale Mekele, a souligné Ocha, sans donner plus de détails sur la source de ces informations.
Au moins 4 personnes, dont 2 civils, ont été tuées jeudi en Somalie lors d'un raid mené par des rebelles Shebab sur Balkad, une localité proche de la capitale Mogadiscio, a affirmé la police. Cette attaque intervient en pleine crise politique dans le pays, où le bras de fer entre le président et le premier ministre a encore fait monter la tension ces derniers jours. L'attaque a été revendiquée par les Chebab dans un communiqué.
En Libye, le premier ministre intérimaire Abdelhamid Beba a présidé jeudi un conseil du gouvernement marquant son retour officiel à son poste après avoir pris congé de ses fonctions pour briguer la présidentielle avortée. John Lydon.
La situation politique est critique, a d'abord rappelé M. Deba, la Libye n'étant pas parvenue à tenir l'élection présidentielle prévue le 24 décembre, une élection longtemps attendue comme l'aboutissement du processus de paix parrainé par l'ONU. Sur fond de désaccords insurmontables, notamment concernant la base juridique de l'élection lors de laquelle devaient s'affronter plusieurs candidats clivants, une commission parlementaire a conclu à l'impossibilité d'organiser le scrutin 2 jours avant sa tenue. Lui-même candidat alors qu'il s'était engagé à ne pas briguer la présidence lors de sa désignation à la tête du gouvernement intérimaire en février, M. Deba a défendu son bilan. « Nous avons œuvré pour rétablir la sécurité et soutenir la stabilité », a-t-il affirmé jeudi, exhortant ses ministres à se préparer pour une relance économique forte en 2022. L'exécutif est aussi secoué par des affaires judiciaires. Mercredi, un ordre de mise en détention préventive a été émis contre la ministre de la Culture dans une enquête pour corruption après une procédure similaire à l'encontre du ministre de l'Éducation pour négligence dans l'exercice de ses fonctions.
Les Sud-Africains se sont recueillis jeudi devant la dépouille de Monseigneur Desmond Tutu à la cathédrale Saint-Georges du Cap, d'où il a longtemps pourfendu le régime raciste de l'apartheid pour une chapelle ardente dont c'est le premier jour aujourd'hui, vendredi. De tous âges et de toutes couleurs, ils se sont arrêtés quelques secondes chacun devant la dépouille de l'ancien archevêque du prix Nobel. Après une incinération privée, les cendres de Monseigneur Tutu seront inhumées demain, samedi, dans la cathédrale dont il a été l'archevêque une dizaine d'années jusqu'en 1996.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus jeudi pour la deuxième fois ce mois sur fond de tensions accrues entre Washington et Moscou à propos du déploiement massif de soldats russes à la frontière avec l'Ukraine. Michel Joseph.
Le président Joe Biden a menacé Vladimir Poutine d'une réponse ferme à toute invasion russe en Ukraine lors de l'échange téléphonique de jeudi, durant lequel le président russe a affirmé que de nouvelles sanctions contre Moscou seraient une erreur colossale. Les deux leaders ont fait l'éloge de la voie diplomatique pour sortir de la crise générée par la menace d'une invasion russe. Les États-Unis répondront de façon résolue à toute invasion russe en Ukraine, a déclaré le chef de l'exécutif américain. Son homologue russe a fait savoir la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, sans d'autres précisions. Mais tout progrès diplomatique passera avant tout par une désescalade en Ukraine, aurait-il prévenu. Selon un communiqué du Kremlin publié après l'appel, Joe Biden a souligné que Washington ne déploierait pas d'armes offensives en Ukraine. Pour Moscou, la sécurité de la Russie passe par l'interdiction de tout élargissement de l'OTAN, perçu comme une menace existentielle. Des représentants américains et russes doivent prendre part le 10 janvier à des discussions sur les activités militaires de leurs pays respectifs et la situation en Ukraine avant une réunion le 12 janvier entre la Russie et l'OTAN. Le président Biden a participé à cet échange téléphonique d'une cinquantaine de minutes, son deuxième en moins d'un mois avec l'homme fort du Kremlin depuis Wilmington, son fief du Delaware, où il passe les fêtes de fin d'année.
L'Iran a envoyé 3 appareils de recherche dans l'espace avec une roquette de lancement de satellites, a déclaré jeudi le ministère iranien de la Défense, une annonce qui intervient en marge des négociations indirectes avec les États-Unis menées à Vienne pour rétablir l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. À Washington, un porte-parole du département d'État américain a déclaré que les États-Unis étaient au fait des informations faisant état du lancement iranien, décrivant ce type d'action comme contraire à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies entérinant les termes de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien.
Le monde s'apprête à entamer en 2022 une troisième année de pandémie alors que les contaminations explosent, mais que de timides signes d'espoir apparaissent. En Afrique du Sud, par exemple, premier pays à avoir signalé le nouveau variant, le couvre-feu a été levé de minuit à 4h du matin pour permettre le déroulement des festivités. Les autorités sanitaires ont déclaré qu'une baisse des infections dans le pays au cours de la semaine dernière indiquait que le pic de la vague en cours était passé. À présent, la minute écho avec John Lindon.
Au Cameroun, la mise en place de la décentralisation devrait franchir un palier important avec la décision des pouvoirs publics de consacrer plus de ressources financières au fonctionnement des conseils régionaux au cours de l'exercice 2022. Selon Financial Afrique, la dotation générale de la décentralisation, incluant les communes et les régions couvrant le fonctionnement et l'investissement, s'élève à 232 milliards de francs CFA pour l'exercice 2022 contre 50 milliards de francs CFA le précédent exercice. L'indice général des prix de l'immobilier en Tunisie a connu une hausse de 12,1 points au troisième trimestre 2021 comparé à la même période en 2020 selon les données publiées par l'Institut national de la statistique basé à Tunis. À en croire Financial Afrique, cet indice est passé de 135,4 au troisième trimestre 2020 à 147,5 un an plus tard. En revanche, ajoute le site, par rapport au deuxième trimestre 2021 où il se situait à 153,1, l'indice général des prix de l'immobilier connaît une baisse de 5,6 points en glissement trimestriel. L'Égypte est sur le point de rejoindre officiellement la nouvelle banque de développement des BRICS en tant que nouveau membre. Selon Financial Afrique, l'adhésion à ce bloc de pays qui comprend notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud sera effective dès que le pays aura achevé ses processus internes et déposera l'instrument d'adhésion. Une fois l'adhésion actée, indique le site, l'Égypte bénéficiera d'une nouvelle plateforme pour renforcer la coopération avec les pays des BRICS en matière d'infrastructure et de développement durable.
Place maintenant au sport avec Élisée Oumpatine.
Oui, bonjour Jean-Roger et bonjour à tous. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun, des sélections qualifiées affûtent leurs armes en livrant des matchs amicaux. En stage de préparation à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, la Mauritanie et le Burkina Faso se sont affrontés hier. Et au terme des 90 minutes, les deux équipes se sont neutralisées 0-0. Mourabitoun et Talon font livrer d'autres rencontres amicales en attendant de rejoindre le Cameroun. Côté Algérie, le flou plane toujours sur le premier match test des Fenech face à la Gambie demain samedi à Doha au Qatar. Les joueurs algériens rencontrent actuellement des difficultés avec trois de leurs joueurs testés positifs au coronavirus. Inquiet, le sélectionneur Jamel Belmadi, en conférence de presse, évoque également l'arrivée tardive de certains joueurs, ce qui pourrait compromettre la préparation du champion d'Afrique.
Alors il y a deux choses qui compliquaient la préparation. Il y a les cas Covid et il y a cette date du 3, alors qu'on avait un match le 1er et qu'on avait un match le 5, match préparation. Donc ça complique très 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 largement, vous pouvez le comprendre, notre préparation, puisqu'on est un nombre de joueurs limité, des joueurs qui vont arriver avec un certain niveau de forme, pas la possibilité de peut-être jouer ces deux matchs-là. Donc on est aujourd'hui dans une réflexion de prendre une décision, savoir si on annule ce premier match contre la Gambie ou pas. On est en train de faire le maximum pour ça. Dans ma position, ce que je me dois, c'est de trouver des solutions. On va rester optimiste, et on va essayer d'avancer.
Jamel Belmadi, sélectionneur des Fenech d'Algérie, son homologue tunisien Mondé Kebayeh, en attendant de démarrer son stage de préparation, a communiqué la liste définitive des joueurs qu'il a retenus pour le tournoi. Une liste de 28 joueurs avec des habitués comme Wabi Kazri, Farouk Ben Mustafa, Ali Maloul, Naïm Sliti ou encore Youssef Msakni. En revanche, pas d'Issam Djebali et de Ferjani Sassi. Les aigles de Carthage sont placés dans la poule F aux côtés de la Mauritanie, du Mali et de la Gambie. Du basketball pour terminer, la NBA et avec vous Jean-Roger, les résultats de la nuit.
Oui, Élisée, Milwaukee a battu Orlando 136-118. Les Wizards de Washington DC ont dominé Cleveland 110-93. Et Philadelphie a pris le meilleur sur les Nets de Brooklyn 110-102.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, les conclusions des Assises nationales de la Refondation ont été rendues publiques ce jeudi 30 décembre à l'issue des travaux de la phase nationale. La recommandation la plus attendue était celle du délai de la transition. Eh bien, le forum recommande une durée de 6 mois à 5 ans. Notre correspondante à Bamako, Mariam Kouyaté, nous en dit plus.
Les assises nationales ont rendu leurs recommandations. Pas de surprise. Le report des élections du 27 février prochain a été confirmé. Les participants préconisent une prolongation de la transition sur une durée de 6 mois à 5 ans. Siri Massako est rapporteur.
De la durée de la transition, les participants se sont prononcés pour la prolongation de la transition afin de pouvoir réaliser les réformes institutionnelles structurantes et par conséquent permettre des élections crédibles, équitables et transparentes. Les délais avancés varient de 6 mois à 5 ans.
Au-delà de la prorogation de la transition, d'autres recommandations ont été émises, notamment la réduction du nombre de partis politiques, l'élaboration des mécanismes constitutionnels de destitution du président de la République en cas de forfaiture ou de non-respect de son serment, ou encore l'élaboration d'une nouvelle constitution, la mise en place d'un organe unique, pour ne citer que ces points. Les conclusions de ces assises ont été saluées par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta.
Tenir les assises et les conduire à si bon port est un défi majeur à relever dans un contexte politique marqué par des dissensions. Le mérite de cette réussite revient tout d'abord au peuple malien qui, par un sursaut national, a pleinement adhéré à l'esprit et aux enjeux de refondation de l'État.
Le chef de la transition a annoncé pour bientôt un chronogramme pour la mise en œuvre des résolutions de ces assises.
Les assises contribueront à amorcer les réformes structurelles qui vont repositionner notre pays en vue de son redressement, de sa stabilité durable et sa transformation économique et sociale. Conformément aux recommandations issues des assises nationales de la refondation, le gouvernement mettra très prochainement en place un chronogramme visant à assurer le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé.
Les participants se disent satisfaits et se reconnaissent dans les recommandations. Cependant, ils appellent à une application intelligente des différentes recommandations.
Par rapport à l'éducation, je suis satisfaite. Si ça a été appliqué comme les résolutions, je pense que l'éducation sera refaite.
À 99%, tout ce que nous avons amené comme résolution, comme recommandation, vraiment ça a été pris en compte.
À travers la lecture, on se retrouve dedans. On a vu que les préoccupations sont prises en charge. Il reste maintenant l'application.
Seulement de quoi inscrire aux résolutions pour l'application, c'est ce qui m'inquiète un peu.
Le Mali, qui est menacé de nouvelles sanctions par la CEDEAO, va bientôt présenter à l'organisation sous-régionale un nouveau chronogramme. Et dans son discours, le colonel Assimi Goïta a appelé la communauté internationale à accompagner son pays dans l'organisation des élections. Mariam Kouyaté Bamako, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24 heures sur 24.
En Guinée, l'Alliance citoyenne pour la transition, composée d'une trentaine de plateformes et d'organisations de la société civile guinéenne, propose aux nouvelles autorités une transition de 2 ans. Elle estime que ce délai est suffisant pour mettre en place tous les organes et organiser les élections dans le pays. On écoute les réactions à Conakry, au micro de notre correspondant Zakaria Kamara.
Le chronogramme de la transition est toujours attendu, plus de 3 mois après le coup d'État qui a renversé Alpha Condé. Selon la charte de la transition, sa durée sera fixée de commun accord entre les forces vives et le CNRD. Pour l'Alliance citoyenne pour la transition, il est bien possible d'organiser des élections dans 2 ans. Une proposition qui fait réagir à Conakry.
Selon moi, c'est possible. Avec un bon planning, et on peut le faire, on peut réaliser. Et ils disent qu'ils ne sont pas là pour développer le pays, mais ils sont là pour la refondation.
Pour moi, très sincèrement, 2 ans, c'est pas possible. En tout cas, pour ma part, il faut vraiment donner du temps au colonel Mamadou Doumbouya, vu sa volonté, son engagement de bien faire les choses, et de permettre d'asseoir vraiment une base démocratique afin de nous présenter quelque chose de consistant, de propre, voilà, comme élection.
Moi, je souhaiterais qu'on prenne tout le temps utile, toiletter, nettoyer, même s'il faut avec de l'eau de Javel, pour qu'après tout ce toilettage, il n'y ait pas de discorde.
L'Alliance a présenté aux journalistes mercredi à Conakry une proposition de chronogramme. D'abord, la mise en place des organes, l'élaboration du projet de constitution et son adoption, les réformes électorales et l'enrôlement des électeurs pendant les 18 premiers mois. Ensuite, des élections couplées pourraient être organisées, selon elle, dans les derniers mois. D'autres propositions commentées dans les rues de Conakry.
Bon, tout à fait. On a eu l'expérience à travers plusieurs pays de la sous-région. Le Ghana a couplé toutes ses élections. Et la Sierra Leone l'a fait également. Donc, en aucun cas, le peuple de Guinée ou les populations guinéennes ne peuvent pas faire des élections couplées. Mais tout cela dépendra du véritable agenda qui sera fait par les acteurs politiques, par la société civile, mais également par les forces vives de la nation. Au fait, toutes les composantes de la République.
Non, je ne pense pas. On n'a pas encore ces moyens-là. Parce que le problème fondamental déjà, c'est peut-être se situer au niveau du fichier électoral. Donc le temps de toilettage de ce fichier électoral, mettre fin à toute cette mise à jour et coupler toutes ces élections, c'est vrai, sur le plan budgétaire, ça va réduire les coûts, mais sur le plan organisationnel, ça va être un peu très, très complexe.
Moi, la bonne forme, c'est vraiment les couplets pour éviter de connaître ce que nous avons connu en 2010. Hein, voilà, à ce moment-là, aucun ne sera fort, n'est-ce pas, pour pouvoir monopoliser plus tard des élections en sa faveur. Donc cette question ne se pose pas. Maintenant, la question qui reste à savoir, c'est est-ce que dans 2 ans, nous serons prêts, effectivement, à asseoir tout cela.
La junte au pouvoir en Guinée a entamé une série de rencontres avec les partis politiques. Mercredi, elle a échangé avec Sélou Dalein Diallo, ex-opposant Alpha Condé. La classe politique guinéenne sollicite la mise en place d'un cadre formel de concertation en vue d'ouvrir des discussions pour une transition inclusive. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Direction le Burkina Faso, la SBT, la société burkinabè de télédiffusion, qui avait suspendu les signaux télévisuels sur la TNT, la télévision numérique terrestre, a rétabli mardi dernier ses chaînes locales de télévision. Elles avaient été suspendues pour non-paiement de la redevance, un montant exorbitant selon ces télévisions privées. Les associations de journalistes, elles, dénoncent une atteinte au droit à l'information des populations. De Ouagadougou, le reportage de notre correspondant Lamine Traoré.
Sur 10 chaînes de télévision privée commerciale du Burkina Faso, les signaux de 9 avaient été suspendus du multiplex de la TNT depuis le 9 décembre 2021. C'est la SBT, la société burkinabè de télédiffusion, qui a procédé à ces suspensions, avançant comme motif le non-paiement de la redevance TNT. Elle s'élève à 75 millions de francs CFA hors taxes par télévision et par an pour la couverture nationale, soit 88 500 000 francs CFA TTC. Énorme pour ces télévisions.
Pour nous, c'est énorme. Le contexte du Burkina Faso est très délicat.
Ismaël Ouedraogo est le directeur général de Burkina Info, membre de l'Union Burkinabè des éditeurs de presse de services de télévision.
Les entreprises de presse télévisuelle commerciale, surtout, se partagent un marché très étroit. Quand la SBT est arrivée avec son contrat, on a souhaité qu'on renégocie les tarifs parce que c'était trop élevé. Il ne sert à rien aujourd'hui de demander à des entreprises de presse qui sont déjà sous tension financière de se débattre comme de beaux diables pour payer 6,5 millions par mois, donc 75 millions sur l'année. Mais quand on ajoute la TVA, donc on est à 88 millions. Nous avons dit à la SBT et notamment au ministère de la Communication qu'il était opportun qu'on réfléchisse sur le mécanisme pour la viabilité des entreprises de presse au Burkina Faso, parce que la TNT est censée donner une place importante aux médias nationaux, notamment les télévisions nationales. Pourquoi aujourd'hui on veut casser la poule aux œufs d'or en mettant le débat au niveau des questions financières?
Les organisations professionnelles de médias dénoncent une atteinte au droit à l'information des populations. Écoutons Gizou Massanogo, président de l'AJB, Association des journalistes du Burkina.
Le droit à l'information du public est consacré par la Constitution. Et comme tel, il faut permettre que le public soit informé dans la diversité, pas seulement par un seul canal. Voilà, on peut comprendre que les gens aient des difficultés pour honorer leurs engagements vis-à-vis de la SBT, vis-à-vis de l'État. Mais il faut toujours discuter.
Mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement a réagi sur la question. Alkassoum Maïga, porte-parole du gouvernement.
Si c'est un accord qui arrange la SBT
et les détenteurs de presse privée. Je pense que le ministère donc avisera et nous devons faire en sorte dans tous les cas que les populations du Burkina Faso aient accès à de l'information. De l'information de qualité.
Mardi dernier, un accord a été trouvé entre les télévisions privées et la SBT. Cet accord entre les deux parties, l'Union Burkinabé des éditeurs de presse de services de télévision et la Société Burkinabé de télédiffusion, permet le rétablissement des signaux des programmes de télévision. Peut-on lire dans un communiqué conjoint. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Sénégal, surtout à Dakar, la capitale, une multitude d'écoles de formation a vu le jour, mais le manque de rigueur dans la formation et les cours dispensés sont souvent pointés du doigt. Malgré cela, des milliers de jeunes diplômés continuent d'être mis sur le marché de l'emploi avec des acquis souvent très insuffisants. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
En cette fin d'année, plusieurs écoles de formation organisent la cérémonie de remise de diplômes des promotions sortantes, des festivités qui sont souvent suivies de fortes déceptions pour les jeunes diplômés, comme Mam Hassan Gueye.
Bon, à vrai dire, la situation a été courante, dans la mesure où bon, on ne peut même pas postuler pour certains concours avec nos diplômes qui ne sont pas reconnus. On dirait qu'on jette notre argent à travers une fenêtre. Et ce qui fait le plus mal, les écoles de formation ne nous disent jamais la vérité. Quand on vient pour nous inscrire, car leurs diplômes ne sont pas reconnus par l'État.
Une situation ubuesque qui oblige les associations de parents d'élèves à se battre pour sensibiliser le public au sujet de ces écoles qui mettent en péril l'avenir des étudiants. Gore Mbaye Gueye est un parent qui milite activement contre la prolifération des écoles et instituts privés.
La quasi-totalité des écoles ou instituts de formation privés ne sont pas accrédités par la CAMES ni la NACSUP. Autrement, l'éditeur structure ne reconnaissent pas une école ou une structure, mais les formations délivrées ou proposées par ces derniers. C'est-à-dire, il faut noter aussi que les titulaires des diplômes de ces écoles ne sont pas reconnus par l'État du Sénégal et l'ensemble des pays membres du CAMES. Raison pour laquelle je suggère toujours les futurs étudiants de se renseigner sur la qualité des formations dispensées par les écoles qu'ils comptent s'inscrire.
Du côté des écoles incriminées, on préfère se murer dans le silence. Sous le couvert de l'anonymat, un professeur donne quand même son point de vue sur la dite situation qui, dit-il, est imputable aux étudiants. Ces derniers, d'après lui, se contentent des publicités sur les réseaux sociaux au lieu d'aller voir au plus près ce qui est proposé.
Ils ont une paresse intellectuelle démesurée. Vu la venue de nouvelles technologies, ils sont plus concentrés sur les réseaux sociaux. Eux, je dirais, bon, il y a une qualité dans les écoles de formation. Certes, ils sont là juste pour le profit, mais il y a de la qualité. Il y a des écoles d'excellence à Dakar, précisément des écoles catholiques, beaucoup d'écoles, mais je pense que la faute de nos jours doit être reversée ou déversée aux étudiants et aux élèves, je pense, à mon humble avis.
Pour contrôler et réguler la formation dans le supérieur, l'État du Sénégal a mis en place l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Une agence qui, à terme, devrait garantir la mise aux normes des établissements d'enseignement supérieur et ainsi permettre aux apprenants d'être mieux outillés pour faire face au marché du travail. Sédina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
Voilà, ce sera tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi au micro. Jean-Roger Billon et Rosine Monezero, à la mise en onde Michel Joseph et à la technique Elvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne année 2022 à tous.